Tirai. Bon matin. Vous allez bien? C'est bien de voir une salle pleine. Pas pleine de trous, mais pleine quand même. Je suis content de vous voir. J'ai pensé à vous cette semaine. J'ai prié pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Et nous devrions commencer par la lecture de ce que l'on va voir ce matin dans 1 Corinthiens au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, c'est titré par des commentaires de cet appel à la sainteté. Mais le point principal, c'est la lecture de la parole. J'ai cherché une introduction. J'ai dit, comment est-ce que je pourrais introduire l'introduction, finalement? Comment est-ce que je pourrais introduire ça ce matin? Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est des versets. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4, 3. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la justice. Romains 6, 19. Et le dernier, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'Église de Corinthe avait un problème. Le problème de se laisser influencer par les pensées du monde. Les pensées du monde s'introduisaient dans l'Église. Pourtant, même si l'Église est dans le monde, on ne peut pas se sortir du monde, on vit à travers, elle ne provient pas du monde. Elle n'a pas été formée par le monde. Elle n'appartient pas au monde. Et par le fait même, elle ne devrait pas être influencée par le monde, mais plutôt par la parole, par Dieu, par Christ, par l'Évangile. Pourquoi ce titre, le combat de l'Église? Drôle de titre, le combat de l'Église. Moi, je viens à l'Église pour être en paix. Où il est le combat de l'Église? On croit que ce titre est valable parce qu'aujourd'hui encore, le monde tente d'entrer dans l'Église par toutes sortes de moyens. Même si le but de l'Église est d'être une influence dans ce monde, une influence d'amour et de sainteté. Il n'y a pas grand monde sur la terre qui est capable de dire qu'il aime vraiment et qu'il est vraiment saint. sauf peut-être un chrétien. L'introduction de la lettre aux Corinthiens est un appel à la sainteté. Et comme chaque chose qui va arriver, que vous allez entendre au cours de cette étude, va être un appel à la sainteté, un appel à la maturité. On s'entend bien que l'Église, ce n'est pas la bâtisse. Ça, on le sait. L'Église n'est pas le bâtiment. Mais c'est l'ensemble des personnes qui ont décidé de s'engager pour Dieu en leur donnant la vie. C'est-à-dire que lundi matin, l'Église va aller à la job. Lundi après-midi, l'Église va prendre un repos. L'Église va être en télétravail. L'Église va faire son épicerie. L'Église va avoir des relations avec les gens du monde. L'Église devra être une influence. Ce n'est pas parce que vous êtes assis ici que quand vous sortez, vous n'êtes plus l'Église. Vous continuez à être ce témoignage. Vous êtes l'Église. Nous sommes tous l'Église. La lettre commence normale en se présentant, Paul et Sosthène. Mais elle s'adresse, elle parle aussi à qui elle est destinée, au destinataire de cette lettre. On parle premièrement des gens de Corinthe. Des gens de Corinthe, deuxièmement, tous ceux qui ont été sanctifiés, autrement dit, qui ont la capacité d'être touchés par la sainteté. C'est qui les sanctifiés? C'est qui est sanctifié? C'est tous ceux qui ont pris position pour l'Évangile. C'est tous ceux qui ont décidé d'accepter les règles de Dieu pour s'approcher de lui. C'est-à-dire, quelles sont ces conditions-là d'avoir donné sa vie à Christ, d'avoir reconnu le sacrifice sur la croix et de dire quelque part, « Moi, je suis coupable et mon seul avocat, c'est Christ. » Et celui qui fait ses efforts pour respecter ces règles-là tous les jours. Voilà le sanctifié. Et ceux aussi, troisièmement, qui sont appelés saints, saints par vocation. On sait c'est quoi une vocation, malgré que c'est un mot qui n'est plus tellement utilisé. Anciennement, on avait une vocation, un appel, c'était quelque chose qui dirigeait notre vie. Et c'est encore cela aujourd'hui. Même si le mot est moins utilisé, ça existe encore. Et c'est ce que nous sommes appelés. Être sanctifié. Être sanctifié, c'est recevoir la capacité d'être sanctifié. C'est ça, être sanctifié. Et cela devient un changement. Pas un changement dans nos vies, un changement de nos vies. Un changement complet. Ce changement se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est un changement qui se fait. Et c'est ce qu'on recherche à l'occasion d'un baptême. Nous avons eu un baptême il y a quelque temps. La notion du temps est difficile. Là. Deux semaines, trois semaines, un mois, je ne sais plus. Là. Mais on a eu un baptême. Et ce que l'on cherche à savoir dans le baptême, c'est le moment avant la sanctification et après la sanctification. C'est-à-dire qu'il y a un avant puis il y a un après. Il y a un changement qui se fait. On doit voir ce changement-là. On doit être capable de dire quelque part qu'il y a un vrai changement. À quelques reprises, ça m'est arrivé de voir cela. Ce changement, c'est un nouvel esprit qui nous anime, l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. C'est cela, ce changement-là. Et il nous dicte une manière différente de vivre. Voilà la sanctification. Il y a différentes manières de vivre ce changement-là. Certaines personnes peuvent dire l'endroit où ils ont vraiment perçu, la date précise, l'heure, mais d'autres, absolument pas. Je serais incapable de vous dire la date, l'heure ou l'endroit où est-ce que j'ai accepté le Seigneur. J'avais écrit une lettre à quelqu'un que je n'avais pas envoyé, puis je lisais la lettre, donc je suis capable de définir que c'était à l'automne, 1980, je crois. Mais ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait eu un changement. Que je sois au fait, j'ai accepté le Seigneur là, ou que je m'en rappelle pas. Ce qui est important, c'est que je vois un changement. Le changement, c'est qu'avant, nous étions appelés à rien de particulier, et maintenant, nous sommes appelés à être saints. Et mon comportement va changer en fonction de cela. C'est une sanctification, ça se voit. C'est quelque chose qui se voit. C'est pas quelque chose qui dans l'air à peu près. Ça se voit. Ça se voit dans les décisions que nous prenons. Ça se voit dans les propos que l'on tient. La sanctification, ça se voit dans les sujets que Paul traite dans 1 Corinthiens. L'unité de l'Église, les serviteurs de l'Église, l'immoralité, le mariage, la liberté dans l'Église. Dans tous ces sujets-là, la sanctification se voit. Nous avançons dans la sanctification à travers la compréhension de la parole, à travers ce que l'on voit, à travers ce que l'on lit, à travers ce que l'on comprend, et des principes bibliques que Dieu veut que l'on connaisse. Paul introduit sa lettre en focusant sur la sainteté et ses effets. Paul sait que c'est de cette manière de vivre, et c'est la seule manière de vivre avec et pour Dieu, en étant saint. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est une condition sine qua non, comme on dit. J'aime ça, de temps en temps, donner ma culture de même. C'est M. Bernier qui disait, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. On devrait se sentir visé à travers la lecture de cette épître, parce qu'elle nous amène à évaluer nos pensées. Et où est-ce que nos pensées se situent et où est-ce qu'ils devraient se situer? On ne devrait pas avoir peur d'évaluer notre manière de penser. À savoir, est-ce que je suis dans la rectitude de la parole? Est-ce que la parole pense comme moi? Est-ce que je pense comme la parole? Est-ce que je devrais développer ce sujet-là un peu plus? Je ne comprends pas tout. Et c'est normal. Ne rien prendre pour acquis de ce que je pense de la parole, mais se garder un esprit ouvert à la pensée de Dieu. Un jour, un homme est venu à la maison, un homme de Dieu, qu'on calculait comme grand homme. Certains l'ont connu, M. Buchanan. Il est venu manger à la maison. Et j'étais tout fier de lui apporter une explication sur un verset que j'avais étudié, que j'avais regardé. Puis j'ai demandé, je dis, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, je ne sais pas. Hein? Il ne sait pas. Non, je ne sais pas. Mais ils disent, on peut l'étudier, par contre. On peut l'apprendre. Et quelle leçon que j'ai prise là? J'ai toujours à apprendre de ce que je lis, continuellement. Voici une lettre qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Comme il était demandé aux Corinthiens, Paul demandait aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. » Jugez vous-même de ce que je dis. Ou il va dire au verset 20 du chapitre 14, frères, ne soyez pas des enfants par rapport au jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Excusez le timing, il n'était pas bon au niveau de la diapositive. Frères, ne soyez pas des enfants par rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, si je veux être un homme fait, je dois me développer. Je dois aller plus loin dans ma pensée. Je ne connais pas votre lecture quotidienne. Je ne suis pas chez vous pour savoir si vous lisez ou si vous ne lisez pas ou qu'est-ce que vous lisez. Mais voilà ce que le Collège des anciens et les prédicateurs qui vont venir sur cette tribune aimeraient. On aimerait que 1 Corinthiens fasse partie de votre lecture au quotidien. Que vous soyez imprégné de ces textes lorsque vous venez écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de ses serviteurs. Que vous soyez remplis d'un Corinthien et de d'autres choses si vous voulez, mais prenez du temps pour lire 1 Corinthien, de méditer sur cela. Que vous priez, que votre cœur soit réceptif à ce que l'Esprit veut vous dire. Que vous compreniez bien ce que la personne a à dire en avant. Dans ces temps où Satan et le monde sont très actifs, nous avons besoin que la parole fasse contrepoids à toutes les pressions que le système du monde exerce sur nous en tout temps. C'est un besoin essentiel. Comme nous, l'Église de Corinthe était de celles qui recevaient beaucoup de pression de l'extérieur. Dans quel milieu de vie vivait l'Église de Corinthe? Vous en donnez une idée, une expression populaire qui voulait dire « vivre dans la débauche », ça c'était, il disait « tu corinthises ». Ou une corinthienne, dans un discours, c'était une prostituée. Un corinthien, c'était un coureur de jupons. Et dans les pièces de théâtre, les corinthiens étaient représentés par des ivrognes. C'était l'image de Corinthe. Et c'était l'Église qui était dans cette ville qui devait supporter cette pression-là. Il est évident que quelqu'un arrivait de l'extérieur et y emmenait son bagage. Il devait complètement refaire les choses, complètement changer ses manières de faire. Mais, malgré toutes les pressions qui peuvent exister autour de nous, autant chez les Corinthiens que nous, nous sommes comblés. Et c'est ce qu'il va dire au verset 5. Nous sommes comblés. De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. L'Église de Corinthe avait environ 5 ou 6 ans d'âge, environ. Si on regarde, j'ai essayé de trouver l'âge exact, mais ça donne environ ça. On pourrait même aller jusqu'à 10 ans peut-être. Mais déjà l'apôtre explique aux gens qu'ils étaient comblés. Le terme grec du mot « comblé » veut dire... Lorsqu'on dit qu'une personne est comblée, c'est que c'est une personne est puissante par sa possession, par ce qu'il possède. Le terme « comblé », c'est ce que ça veut dire. Mais ici, la première possession qui est mentionnée, c'est la parole. C'est une richesse qui ne peut pas être évaluée par le monde. Les gens délaissent, ils disent à quelque part, bah, « c'est écrit par des hommes, c'est un livre comme un autre, ça n'a pas de sens ce livre-là. » Il y a plein de contrariétés. Elle ne peut pas être évaluée par le monde. Mais pour le chrétien, c'est sa richesse. Je pensais à ça hier, je me disais, on m'offrirait 1 million si on m'interdisait de lire la Bible. Je dis, je te donne 1 million, si on t'interdit de lire la Bible, tu ne la liras plus jamais pour le reste de ta vie. Je dirais, regardez ton million. La Bible vaut plus que ça. La Bible a beaucoup plus d'impact dans ma vie que tous les millions que tu pourrais me donner. C'est une richesse qui ne s'évalue pas par le monde, mais qui s'évalue par le cœur du chrétien. Par elle, on connaît mieux le monde et son avenir. Par elle, nous apprécions le calme et la quiétude de notre avenir. Par elle, on peut se regarder vraiment avec vérité. Ça nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes. Mais par elle aussi, nous avons les indications pour appliquer les changements de vie que Dieu veut de nous. C'est une richesse qui nous comble, non seulement parce qu'on peut la lire, mais parce qu'on peut la comprendre. On peut saisir par l'Esprit ce qu'elle a à nous dire. Nous pouvons saisir la profondeur de sa mesure si nous nous y attardons, si nous prions sur elle. Et c'est ce que Dieu désire de nous. Et Dieu veut qu'on aille jusque-là parce que c'est là que ses richesses sont. Lorsque nous nous attardons à la parole, lorsque nous prions, lorsque nous sommes lorsque nous méditons ce que Dieu a à nous dire. Dieu travaille toujours avec les travailleurs. Il bouge toujours avec ceux qui veulent bouger. Mais Dieu ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Et c'est une parole de M. Bonnke. Je prononce probablement mal son nom. La connaissance est aussi une richesse. Je suis content de savoir ce que je sais maintenant. Ça m'a sauvé beaucoup de problèmes de savoir plein de choses. Le seul problème, c'est que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Pas là. Il y a une quantité de choses que nous connaissons, mais il y a aussi une qualité dans les choses que nous connaissons. Je connais beaucoup de choses en mécanique. J'en ai fait mon métier pendant 30 ans. Ça nourrit moi et ma famille. Et ça m'a donné beaucoup de connaissances. Et au cours de ma vie, je me suis intéressé, et je m'intéresse encore, à plusieurs facettes. Je suis très curieux, dans tous les sens du mot. Je suis très curieux des choses de la vie. J'aime savoir les choses. Quelquefois, je vais arrêter, comment ça s'écrit ce mot-là, puis je vais le chercher pour trouver exactement. Plein de choses que j'aime savoir. Mais franchement, toutes ces connaissances-là, à quoi ça me sert? Quelle est l'utilité de toutes ces connaissances-là? À peu de choses. Mais que je meurs, ça va être fini. Puis même avant, mais quand j'oublie, la connaissance ne sert plus à rien. Mais par contre, ma relation avec Dieu, ma connaissance de Dieu, de Christ, de la parole, sont utiles pour ma marche chrétienne. Ils sont utiles pour ma sainteté, pour notre sainteté. Est utile pour notre relation avec Dieu. C'est utile pour mon perfectionnement, pour ma maturité. Et c'est cette connaissance-là qui a une grande valeur. Paul l'exprime très bien de cette connaissance dans Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voilà la connaissance qui est vraiment importante. Voilà la vraie richesse. Ça m'importe peu de savoir calibrer un moteur. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu veut que j'aille. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain matin pour lui? Lorsque je veux connaître comment cuisiner, c'est simple, je rouvre un livre de cuisine, puis je regarde comment c'est fait. Et c'est la même chose pour toute espèce de connaissance. Mais pour les choses spirituelles, il ne suffit pas d'ouvrir la Bible pour connaître. Nous avons besoin que le témoignage de Christ soit établi parmi nous. Nous avons besoin de savoir que Christ est dans ma vie, que je lui ai confié ma vie. Christ est la clé qui ouvre toute connaissance. Et Colossiens 2, versets 2 et 3 disaient, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » C'est en Christ que toute sagesse et toute connaissance sont révélées. Donc, c'est parce que Christ est établi sur nous, parce que Christ a sa place dans mon cœur, que je puis connaître la parole de Dieu. Si vous avez fait de Christ votre vie, vous avez accès à cette connaissance. Si vous faites de Christ votre quotidien, votre connaissance se développera et le mystère de Dieu vous sera révélé, à vous personnellement. Et c'est pareil pour tout chrétien, pas juste celui qui prêche en avant, aussi pour celui qui écoute. Par-dessus ça, par surcroît, la connaissance nous donne la capacité de s'exprimer dans ce monde qui ne connaît pas Dieu. Voilà ce que fait la connaissance. Nous sommes les témoins de Dieu, des ambassadeurs d'un pays qui n'est pas le Québec, qui n'est pas sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs d'un pays céleste. Et nous, comme ambassadeurs, nous représentons ce pays. Nous nous conformons aux règles que le pays demande, les règles de la parole de Dieu. La connaissance que nous avons, nous sommes les seuls à pouvoir l'offrir au monde. Il n'y a jamais aucun gouvernement, il n'y a jamais aucune organisation autre que les chrétiens qui peut offrir ce langage spirituel. Je ne crois pas que M. Legault ou que M. Trudeau puisse en arriver à dire « Bon, mais je vais vous annoncer l'Évangile aujourd'hui. » À moins qu'il devienne chrétien et qu'il établisse Christ en lui. Mais je ne pense pas que comme premier ministre, qu'il puisse le faire. Mais de toute manière, ce message-là nous appartient. Nous avons l'exclusivité du message parce que Christ et l'Esprit-Saint nous donnent de s'exprimer. Paul, dans sa connaissance, nous montre que l'action de Dieu dans le temps. Dans le passé, nous avons été comblés. Celui qui a mis sa vie en règle avec Dieu, il a déjà été comblé à la première journée. C'est-à-dire qu'il est capable de développer sa vie. Au présent, il ne nous manque aucun don aujourd'hui. Même les Corinthiens, dans leur situation, il ne leur manque aucun don pour progresser, pour avancer. Et pour le futur, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. Jamais Dieu va abandonner un travail à moitié fait. Jamais. Et ce travail-là va être complété lorsque soit je vais mourir, soit qu'il m'enlève, et c'est la même chose pour vous. Les dons que l'Église de Corinthe, et du Cap aussi, avaient besoin d'être un témoignage pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas enfermés ici, là. Nous sortons à l'extérieur. Mais tout cela, c'est potentiellement accessible. Tous ces dons-là sont accessibles, sont disponibles. Malgré que l'Église avait tout ce qui était nécessaire, il ne manquait aucun don, ils avaient encore besoin que leur don se développe pour retrouver l'unité au chapitre 1, pour trouver une solution au problème d'immoralité au chapitre 5, pour avoir une vue différente à propos des procès entre chrétiens, pour fuir la débauche au chapitre 6, pour trouver un sens biblique au mariage, et ainsi de suite, et nommer tous les sujets, il fallait que les dons se développent. Développer ses dons revient à dire développer sa maturité. La parole nous dit que nous avons les dons et que notre rôle est de les développer. Et c'est ce que Paul fait par cet enseignement sur tous ces sujets. Voilà l'importance de cet épître. Voilà pourquoi que nous avons fait ce choix-là, éclairé par l'Esprit. Gagner en sainteté. Gagner en maturité, gagner en témoignage et gagner en éveil. Et je crois, et plusieurs auteurs que j'ai lus croient aussi, que l'éveil de l'Église dépend de son niveau de sainteté, de maturité. J'ai pensé à un outil qui va être sur la table en sortant. Un outil tout simple. En 5 points, vous avez les versets mentionnés. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Vous voyez les versets mentionnés ce matin. J'ai même donné un exemple. 1 Corinthiens 1 à 9. Les sujets traités, la sainteté et ce que nous avons en Christ. Autres versets qui sont en lien avec le sujet et il a fallu que je dise, OK, ça, oui, je me rappelle ce verset-là. Comment est-ce que je peux développer ma sainteté dans ce domaine? En mettant en lien ce que je pense de la sainteté, de ce que la parole dit sur la sainteté. Et finalement, ma prière pour le développement de ma sainteté et de ma maturité. Et j'ai fait une prière. Seigneur, rends-moi conscient de ta sainteté et rends vivant en moi le psaume 86, vous voyez mal le 6, là. Psaume 86, verset 11. C'est un exemple. Mais ça, c'est personnel à moi. Ça m'appartient à moi seul. Vous pourriez prendre une feuille en arrière, j'en ai fait des feuilles. Et les feuilles respectent toutes les règles de la COVID-19. Là. Je me suis nettoyé les mains à chaque fois que j'ai touché les feuilles. Et je les ai mises à table. Et je suis convaincu que mon frère, qui va étendre les feuilles sur la table, va faire la même chose. Donc, les feuilles sont sécuritaires. C'est un exemple. La semaine prochaine, notre frère Christian va nous parler de 1 Corinthiens 1, 10 à 31. Bien, voilà les versets mentionnés. Le sujet, c'est à vous de le trouver, ainsi que les autres versets, et c'est un travail de méditation. C'est un travail qui nous amène. Je vous laisse ces feuilles-là. Je vous les laisse. Ce n'est pas une obligation, c'est une aide. Si toutefois vous dites, ah, j'ai pas eu de feuilles ou j'en voudrais d'autres feuilles, vous allez sur Office 65, Assemblée, vous allez voir dans le courriel, j'ai mis un exemplaire là. Si vous avez une imprimante, vous imprimez les feuilles que vous désirez. La feuille qui est en arrière est recto verso. Ça va? C'est à vous, ça vous appartient. C'est un aide que je... Prenez-en une, c'est individuel, c'est pas une par couple, là. C'est une pour chaque personne. Paul avait cette confiance que Dieu était pour faire son œuvre, que Dieu était pour affermir jusqu'à la fin ses serviteurs, affermir jusqu'à atteindre l'irréprochabilité. Un beau grand mot, ça aussi, l'irréprochabilité. L'irréprochabilité n'est pas la perfection. Les synonymes de irréprochabilité seraient honnête, l'honnêteté, être vertueux, être accompli, être irrépréhensible. Être irréprochable, c'est d'être honnête envers Dieu. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait les efforts. J'ai cherché les dons que tu m'as donnés. On va en parler des dons dans cet épître. J'ai cherché les dons que tu m'as donnés. J'ai cherché à les développer pour l'édification de l'Église. Individuellement, moi seul. Non pas moi pour mon épouse ou moi pour mes enfants, mais moi personnellement. Et ça va avoir un effet d'entraînement pour les autres autour de moi. Est-ce que je fais partie de la solution pour faire valoir notre témoignage dans ce monde? Je pourrais regarder à ma faiblesse. Je pourrais dire, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais je regarde plutôt à la personne de Christ en moi, qui a été établie en moi, et à sa parole qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et nous arrivons au verset 9, qui pour moi est un verset clé. Un verset clé du chapitre, puis je dirais même de l'épître. La fidélité de Dieu. Vous allez remarquer que dans les 9 premiers chapitres de 1 Corinthiens, et on va lire le verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ ». Notre Seigneur. Vous allez remarquer que dans les 9 premiers versets de l'introduction à 1 Corinthiens, le nom de Christ revient 9 fois. On ne passe pas à côté. Ça devient comme un mantra. Ça devient comme une obligation. On ne peut pas dire à quelque part qu'il l'a pas manqué, le nom. Là. Et on ne devrait pas l'avoir manqué, nous non plus. La fidélité se retrouve principalement dans la communion avec son Fils. Pas dans le fait que le soleil se lève à tous les matins. C'est une notion. Okay? Dieu est fidèle, le soleil se lève à tous les matins. C'est vrai. C'est une fidélité de Dieu. Pas aussi que le printemps et l'été reviennent année après année. Ou l'hiver aussi revient à tous les ans. Pas qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. C'est aussi une marque de la fidélité de Dieu. Mais un jour, tout ça va s'arrêter. Tout ça va dire « enough ». Dieu va dire « c'est fini ». Mais jamais, jamais la communion avec son Fils. La fidélité de Dieu va se retrouver dans la communion avec son Fils. Il est important de méditer sur ça, cette communion-là. Comment je la vis, cette communion-là avec Christ? C'est important parce que, premièrement, elle est éternelle, donc elle devrait être importante. Gloire à Dieu, elle est éternelle. Ouh. Mais tout ce qu'on a pu faire, tout ce que j'ai pu dire ce matin, tout ce qu'on a pu chanter et tout ce que l'on va faire par la suite de cette réunion et tout ce que je vais découvrir dans ma vie découle de la communion que j'ai avec Christ. Tout vient de là. La communion que j'ai avec Christ. Notre spiritualité, notre sainteté, notre maturité vient de la communion avec Christ. Sur ce fait que notre vie va s'orienter. C'est un peu comme l'image d'un bateau qu'il faut qu'il se rende à bon port. Il va tenir un cap. Il va tenir des données précises. Et s'il lâche le cap, il va manquer le port. C'est la même chose. La communion avec Christ est importante au point que c'est le cap qui va orienter notre vie. Je dois avoir cette communion-là avec Christ. Et c'est ce que Paul veut faire. Il vous donne un autre travail, si vous voulez le faire. Lisez 1 Corinthiens et soulignez à chaque fois que le nom de Christ est mentionné. Vous allez remarquer qu'il est présent tout le temps. C'est la solution. C'est une grande partie de la solution. Nous avons été rachetés pour ressembler à Christ et la communion fait cela. On retrouve ce même principe dans le couple. Il arrive régulièrement que je pense à quelque chose sans en parler à mon épouse, sans même la consulter, mon épouse pense la même chose. C'est ça la communion. Elle et moi, nous prenons des décisions en étant certains que l'autre est en accord avec ce qu'il fait. Ce que Dieu recherche en établissant une communion entre Christ et ses enfants, il veut que nous soyons en communion de pensée, en communion de vie avec Christ. Jean 17, 21 dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Être en communion avec Christ, c'est la meilleure évangélisation qu'on ne peut pas faire. Bien sûr, pour en arriver à cette communion, on doit connaître de plus en plus la personne. Et c'est à cela que nous sommes appelés, c'est notre vocation. On l'a vu au début, c'est quoi être une vocation? La fidélité de Dieu se retrouve dans la constance de la communion. Un appel s'accomplit dans la continuité, dans la constance. Je ne suis pas appelé à être un chrétien le dimanche matin ou le mercredi soir. Je suis appelé à être un chrétien tout le temps. Je suis appelé à être en communion avec Christ tout le temps. Ça devrait captiver mes pensées. Si vous n'avez pas cette communion-là avec Christ, une vie chrétienne est terriblement ennuyeuse. La vie chrétienne est ennuyeuse. La télévision aussi, elle est ennuyeuse. Hein, si elle est débranchée. C'est la même chose avec Christ. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Mon temps est terminé, mais je ne veux pas excéder le temps. J'aurais certainement d'autres choses à dire, mais j'aimerais, comme conclusion, j'aimerais vous laisser dans une prière, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, quelle épître importante, ton livre au complet, toute la Bible est importante. Mais nous voulons prendre cette lecture ce matin et nous voulons la placer vraiment en importance dans nos vies, comprendre le fond de cette épître, la raison pour laquelle elle a été écrite. Et nous voulons marcher pour toi fidèlement. Seigneur, permets que l'on comprenne bien tes paroles, qu'on puisse les mettre dans notre vie et que cela puisse changer notre vie jour après jour, semaine après semaine. Et ce changement sera en fait, Seigneur, une ressemblance à ta personne. Nous voulons te confier nos vies, demandons de confier nos lectures afin que tu sois honoré et glorifié pour ta gloire et pour ton nom dans tous les instants de notre vie. Amen.